Les investisseurs ont perdu beaucoup plus d'argent en se préparant aux corrections de marché ou en essayant de les anticiper qu'il n'y en a eu dans les propres corrections elles-mêmes. Bonjour et bienvenue dans le Money Circle Talks, je suis votre hôte Anthony et aujourd'hui je plonge dans un sujet spécifique pour vous aider à devenir un meilleur investisseur. On va discuter d'un sujet que je trouve hyper important, c'est le timing de marché. Et surtout pourquoi essayer de timer le marché n'a jamais été une stratégie très efficace pour les investisseurs à long terme. Alors, compte tenu du personnel et des auditeurs de ce podcast, on va considérer que nous n'avons pas beaucoup d'expérience en matière d'investissement. Même peu d'entre vous ont déjà connu un ralentissement au-delà de la correction qu'on a pu observer en 2020. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait important de parler de l'une des erreurs les plus courantes que je vois les investisseurs faire pendant ces phases de ralentissement de marché. C'est d'essayer de timer le marché tout simplement. Et pour commencer ce podcast, il y a une excellente citation de Peter Lynch qui dit « Les investisseurs ont perdu beaucoup plus d'argent en se préparant aux corrections de marché ou en essayant de les anticiper qu'il n'y en a eu dans les propres corrections elles-mêmes. » Je pense que cette citation, c'est un excellent moyen de lancer le sujet parce qu'elle nous parle des biais comportementaux que font les investisseurs, surtout quand les choses commencent à mal tourner. C'est notre tendance humaine à vouloir éviter les pertes à tout prix. Je pense qu'on a tous été un jour dans cette situation à vouloir trouver le mouton à cinq pattes. Et en fait, le problème, c'est que cette peur de la perte, ainsi que dans le contraire, l'excès de confiance, tout ça peuvent nous amener à prendre des mauvaises décisions qui peuvent être des erreurs très coûteuses à long terme. Alors pour commencer, qu'est-ce que le market timing? Essentiellement, c'est à chaque fois que vous prenez une décision d'investissement basée sur une prédiction pure de l'endroit où vous pensez que le prix ira dans le futur. On appelle tout simplement ça dans le jargon courant, c'est la spéculation sur les prix. Maintenant, le dire comme ça, ça donne quand même l'impression que c'est pas ce que font les investisseurs à long terme. Mais si, c'est ça le problème. À un moment donné, en fait, par exemple, au cours de la correction que nous avons connue en 2020 ou depuis le début d'année, vous pouvez vous retrouver assis sur la touche en pensant que vous attendez stratégiquement que le marché baisse ou qu'il atteigne un creux un peu plus bas et puis que vous allez être sûr de revenir et d'acheter. Et bien en fait ça c'est une forme de timing du marché. Et le problème c'est que ça semble être un plan très simple et peut-être même hyper rationnel d'attendre que les prix baissent jusqu'à ce que vous achetiez. Mais faut pas se voiler la face, on le sait tous qu'il est pratiquement impossible d'identifier un creux de marché. Et en fait, au lieu de cela, ce qui est plus probable, c'est que vous allez rester trop longtemps sur la touche et vous allez finir probablement par manquer d'énormes gains qui suivent généralement la suite de ces krachs boursiers. C'est comme, pour faire un parallèle avec l'immobilier, combien de personnes ont attendu « oui, ça va baisser », etc., etc. Et ça a continué à monter. Et ces gens-là auraient pu se faire de l'argent, et non, ils ont attendu dans l'optique l'immobilier va baisser, on attend que les taux, nanana, et puis là maintenant les taux sont super hauts, ah oui, mais bon, maintenant les taux ils sont trop hauts, etc., etc. Il y a deux personnes, William Godsman et Dazzle Kim, qui ont publié dans un article de 2017 intitulé « Negative Bubbles ». Dans cet article, en gros, les auteurs ont examiné 101 krachs boursiers mondiaux de 1692 à 2015 et ils ont identifié 1032 événements où un marché a chuté de plus de 50% sur une période d'un an. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un point commun à tous ces krachs boursiers mondiaux, c'est qu'il y avait une probabilité plus élevée de rendement positif après un krach boursier. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que sortir du marché pendant un krach pourrait être l'une des pires erreurs que vous pouvez faire en tant qu'investisseur parce que le problème, c'est qu'il est probable que vous ne reviendrez jamais à temps et que vous allez manquer des gains importants qui suivent généralement après ces cracks. Et quand on y pense, par exemple, si on prend un moment pour réfléchir au marché baissier le plus récent qu'on a tous connu, c'est lorsque la pandémie a frappé pour la première fois en mars 2020. Si on regarde en arrière, sur ce crack, maintenant, on voit, on peut en quelque sorte auditer notre propre comportement pendant cette période. Et je pense qu'on se souvient tous à quel point cette période semblait effrayante et incertaine. Si vous vous rappelez bien, le S&P 500 a connu l'une des corrections les plus rapides de l'histoire. Le S&P 500 a chuté de quelques 30-35% en seulement 30 jours avant de toucher le fond exactement le 23 mars 2020. Et à partir de là, l'indice s'est rétabli en seulement 180 jours, soit environ 6 mois plus tard, pour atteindre les sommets d'avant la pandémie. Donc la chose importante que je tiens vraiment à souligner ici, c'est que lorsque le marché a commencé à s'effondrer en février 2020, il y a de nombreux investisseurs qui ont peut-être vendu leurs investissements par crainte que cette fois-ci c'est différent. Et pendant ce temps-là, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de gens dire qu'ils attendaient simplement que le marché atteigne le plus bas avant de revenir. Et le problème, c'est que ce crash s'est produit si rapidement que si vous n'aviez pas bien timé ce bas de marché parfaitement et que tu n'étais pas revenu sur le marché dans les 30 jours suivants, eh bah, t'aurais manqué, et il y en a beaucoup qui ont manqué des énormes gains qui ont suivi après ce petit crack. Et franchement, moi, 2020, ça a été, sans mentir, ça a été ma plus belle année. En 2020, ça a été ma plus belle année parce que j'ai toujours eu confiance, j'ai une stratégie qui me fait investir tout le temps au même moment, et j'ai alloué une somme supplémentaire. Alors, j'étais pas vraiment dans le bas du marché, mais j'ai investi plus que d'habitude dans cette période et je m'en porte très très bien. C'est ma meilleure année en bourse, je l'ai faite en mars 2020 avec ce crack. Pour vous donner un peu une idée, si vous aviez investi dans un ETF qui suivait le S&P 500 et que vous n'avez retiré aucun de vos investissements pendant le crack au départ, vous auriez vu certes votre investissement chuter de 34, 35, 40% maximum en une trentaine de jours. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il se serait presque rétabli entièrement 30 jours après ça. Donc avec le recul, bien sûr, tout est évident avec le recul. Mais à l'époque, il n'y avait aucune raison de s'attendre à ce que le marché se retourne aussi rapidement. Et il est probable que si vous êtes sorti au moment où ça chutait et que vous êtes resté en dehors du marché, ou alors quand vous êtes revenu mais que c'était déjà trop tard, vous avez probablement manqué des gains exceptionnels, des gains massifs. Et en gros, cette étude, elle veut nous montrer quoi? Elle veut nous montrer que la meilleure stratégie pour la plupart des investisseurs à long terme, c'est de ne pas essayer de timer le marché du tout. Au lieu de ça, les investisseurs, vous devriez vous tenir à votre plan d'investissement qui est défini en fonction de votre aversion au risque, qui est défini en fonction de votre allocation, en fonction de vos revenus, et le suivre coûte que coûte. Et ne pas céder au chant des sirènes de cet objet brillant ou au cri de la peur de BFM Télé, etc., etc. Alors j'ai réussi à trouver une étude qui est vraiment intéressante, qui montre comment la richesse totale d'un investisseur pouvait changer simplement en fonction de la stratégie d'investissement que vous allez mettre en œuvre sur une longue période. C'est une étude qui a été menée par le Schwab Center for Financial Research, où les auteurs ont comparé 5 investisseurs qui ont tous mis en œuvre des stratégies d'investissement différentes pour voir comment la stratégie seule, juste la stratégie, a un impact sur leur patrimoine sur une période totale de 20 ans. Et vous allez voir, c'est une étude super. Je ne sais même pas pourquoi elle n'est pas plus connue que ça. Ainsi, dans cet article, chacun des investisseurs ont tous reçu la même somme, c'est-à-dire 2 000 $. 2 000 $ à investir chaque année. La seule différence, c'était que les investisseurs choisissaient d'investir leur argent chaque année. Il convient également de noter que les investisseurs placent tous leur argent dans le même indice de marché, le S&P 500. Donc les 5 stratégies d'investissement différentes comparées par les auteurs dans cette étude étaient: la première, un investisseur capable de timer parfaitement le marché. Ainsi, cet investisseur a pu investir les 2 000 $ sur le marché chaque année au prix le plus bas, c'est-à-dire tout en bas avant que le marché rebondisse. Deuxième stratégie, c'est un investisseur qui utilise simplement une approche cohérente consistant à investir les 2 000 € dans un indice boursier le premier jour de chaque année et ne faisait absolument aucun effort pour timer le marché. Troisième stratégie, c'était l'étalement des coûts en dollars, ce qu'on appelle le DCA. Et donc pour ce faire, ils ont divisé les 2000 dollars en 12 parts égales et ils ont supposé que cet investisseur a investi l'argent au début de chaque mois pendant 12 mois, pendant 20 ans. La quatrième stratégie, ils ont envisagé que c'était un investisseur qui était très mauvais pour anticiper le marché. Et cette personne a fini par investir ses 2000 dollars chaque année, à chaque fois au sommet du marché, au top du top. Ce qui signifie simplement que c'est le pire moment possible pour investir chaque année, juste avant que le marché baisse, le pauvre. Et il l'a fait chaque année pendant 20 ans. Et la dernière stratégie, ils ont envisagé que c'était un investisseur qui laissait son argent dans les placements en espèces chaque année et qui n'a jamais eu le temps d'investir dans des actions. Cet investisseur a peut-être été quelqu'un qui a toujours été convaincu que, par exemple, que le cours des actions allait baisser et qu'il gardait son argent hors du marché, etc., etc. Et donc, les auteurs, pour réussir à comparer ces 5 stratégies, ils ont supposé que cet investisseur avait obtenu le taux de rendement des bons du trésor au cours de la période sur 20 ans. Ma question, les amis, pour vous, quel est le résultat de cette étude? Bon, sans surprise, vous doutez bien, le premier investisseur, celui qui a été capable de timer parfaitement le marché, mais de manière totalement irréaliste, hein, soyons honnêtes, il a réussi à timer le marché pendant 20 ans, bah, ce mec-là, cet investisseur-là, s'est retrouvé avec le plus de richesses accumulées. Il a ainsi transformé son investissement annuel de 2000 dollars en plus de 151 000 dollars pendant 20 ans. Là où ces résultats en fait deviennent intéressants, c'est que l'investisseur qui n'a fait absolument aucun effort pour timer le marché et qui a simplement investi les 2000 dollars le premier jour de chaque année, eh ben, il s'est quand même retrouvé avec plus de 135 000 dollars. Ce qui au final n'est qu'une différence de 16 000 dollars, ou environ 10% par rapport à ce que l'investisseur a réalisé, alors que lui a acheté toujours au meilleur point le plus bas, chaque année pendant 20 ans. Pareil pour la stratégie de l'investisseur numéro 3, qui, je vous rappelle, était la méthode DCA, eh ben, sachez que ça a donné des résultats presque aussi bons que l'investisseur numéro 2. La différence de richesse totale entre ces deux stratégies, il n'y a même pas 1% de différence. Donc quand je vous parle de la stratégie DCA, les amis, c'est pas pour rien, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Bien sûr, c'est sur le long terme. Si tu me dis sur 1 an, 2 ans, ça va être compliqué. Mais sur le long terme, sur 20 ans, on a une différence de 1% avec l'investisseur qui n'a pas du tout timé le marché. C'est tellement minime que c'est magique. Maintenant, si on passe à l'investisseur qui investissait son argent au pire moment, chaque année pendant 20 ans, eh ben, vous allez être surpris, mais la richesse de cet investisseur a quand même augmenté de plus de 121 000 dollars. Ce qui est près de 3 fois plus que l'investisseur qui n'a pas du tout investi et qui est resté avec ses espèces sur son compte. Et moi, je trouve que ces résultats sont tellement pertinents aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, y compris parmi vous, qui sont peut-être retrouvées dans une position où bah, vous avez essayé de timer le marché dans un sens, en attendant le bon moment, puis au moment de revenir, eh ben, vous craignez peut-être que le marché puisse continuer à baisser, et etc., etc. Et donc, au lieu de ça, si vous êtes simplement en fait, assis sur de l'argent qui est, dans les meilleurs cas, en train d'être complètement érodé par l'inflation si vous ne placez pas votre argent. Surtout en cette période, les amis. Ne gardez pas d'argent sur vous. Maintenant, la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est surtout pour vous rappeler un principe d'investissement qui, pour moi, je trouve, est hyper important. C'est le temps sur le marché est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus impactant que d'essayer de timer le marché. Même si vous investissez dans le marché qui se trouve le plus bas après un certain temps, Le temps reste toujours le facteur le plus important. C'est lui qui va vous aider à générer de la richesse en tant qu'investisseur long terme. Et en fait, je pense que l'étude que je vous ai citée juste au-dessus, cette étude, elle illustre parfaitement ce point. On n'a pas besoin d'être les meilleurs timers de marché, je ne sais même pas si ça se dit, mais vous n'avez pas besoin d'être d'être le Madame Irma des marchés pour construire une richesse substantielle. Il faut relativiser. En fait, même si vous avez accidentellement investi au pire moment possible, juste avant que le marché se casse la gueule, ça n'a pas d'importance. La seule importance, c'est à long terme. À long terme, ça conduira très certainement à un bien meilleur résultat que si tu n'avais pas investi du tout. Pour information, cette étude, elle a été faite sur 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans. Et ils ont découvert que ces résultats ne changeaient pas de beaucoup, peu importe la période qui était prise en compte. Mis à part quelques cas où les achats périodiques par somme fixe, c'est-à-dire la méthode DCA, a fait mieux que d'investir immédiatement, etc., etc., toutes ces périodes ont suivi exactement le même schéma que celui que je vous ai parlé juste avant. Donc, tout ça signifie quoi pour un investisseur à long terme ? C'est que l'utilisation d'une stratégie d'investissement immédiate ou même d'un DCA rapporte presque aussi bien que le timing parfait de marché à long terme. Et ça s'est avéré être le cas pour des horizons temporels de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc si vous craignez que le marché continue de baisser, peut-être que la méthode DCA, c'est la meilleure stratégie pour vous. Et je ne me suis jamais caché, c'est personnellement la stratégie que j'utilise depuis maintenant quelques années. Ça me permet quoi ? Ça me permet de continuer à baisser mon prix d'achat moyen sur certaines de mes positions. Mais surtout, ça m'assure que je suis toujours ma stratégie. Je ne réfléchis pas. Le marché baisse, j'investis. Le marché monte, j'investis. Certes, je n'ai pas le meilleur portefeuille qui existe. Je n'ai pas le pire portefeuille qui existe. Mais j'ai un portefeuille qui est là. Il se défend. Voilà, les amis. Donc, j'espère que le partage de cette recherche va vous aider à vous rappeler ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit de créer de la richesse, c'est le temps. Le temps sur le marché. Le temps, c'est vraiment votre allié pour vous construire une richesse durable et exponentielle. Voilà les amis, j'espère que vous garderez ces résultats de recherche à l'esprit à l'avenir. Je sais qu'il peut être tentant d'essayer d'attendre que le meilleur moment se présente pour investir, en particulier dans un environnement de marché comme actuellement, volatile, incertain, mais rappelez-vous que le coût qui vient avec cette attente, c'est que la richesse ne se construit pas. Et surtout, elle ne se construit pas en quelques jours, mais elle se construit à long terme en se tenant à une approche cohérente. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi savoir si vous avez des questions concernant ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux, ils sont tous liés en dessous dans la description. Vous pouvez me faire aussi savoir tous les sujets que vous aimeriez que je couvre dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le partager à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à toutes les personnes qui ont envie de changer de vie. Je pense qu'ils pourront apprendre pas mal de choses. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était Anthony dans le Money Circle Talks et je vous dis à la prochaine.